Chapitre 3. La maison grise du côté des maîtres était en l'air depuis 15 jours, dans les apprêts du mariage pour lequel on attendait toute la famille Morier. Flore était sur les dents, debout avant l'aube, pour inscrire sur son ardoise une foule d'idées qui lui venaient pendant la nuit, couchée la dernière et ne s'accordant même plus à sieste de l'après-midi. Mais elle ne se plaignait de rien. On lui avait enrôlé des aides qu'elle menait tambour battant. On la consultait sur toute chose, elle était dans la gloire. Au premier étage, dans la grande chambre du Nord, ce sanctuaire tranquille où séchait la bourrache et la fleur de sureau et le tilleul au parfum suave, où des chapelets de champignons enguirlandaient les fenêtres, toute une tribu de petites lingères cousait en babillant. Le linge s'empilait dans des corbeilles, on se hâtait, car il fallait tout terminer pour le mercredi, jour où le trousseau complet devait passer à la lessive. Mademoiselle Sélanie régnait dans cette pièce. Elle allait et venait toute rajeunie, la taille droite, ses bandeaux bien lissés et presque un soupçon de couleur sur ses longues joues blanches. Elle aimait à sortir de ses tiroirs de fins mouchoirs de batiste merveilleusement ouvrés à jour pour montrer aux ouvrières comment on travaillait de son temps. Parfois, quand elle se sentait par trop gaie, elle s'arrêtait, hochait la tête et se demandait si Jules n'était pas, en ce moment même, broyé par une locomotive. Dans la chambre à côté, c'était Adrienne qui faisait la pluie et le beau temps, car on y élaborait des costumes à la mode pour Zoé, et Zoé ne permettait pas qu'on cousît un bouton sans l'assentiment de sa cousine. Il lui fallait de plus celui de son grand-père et du cousin. Quand on venait lui essayer quelque ajustement, elle s'esquivait toute hérissée d'épingles et toute faufilée de fil blanc, elle surprenait les deux vieillards au milieu d'une causerie, et gravement, elle tournait devant eux sur ses talons, écartant les bras pour qu'on vît les plis de la jupe.
« Est-ce bien, grand-papa? Est-ce aussi joli que les robes de ma grand-maman? Mademoiselle Félicie dit qu'on refait les manches d'il y a 50 ans. Ceci est mon costume de voyage. » Je l'ai choisi gris parce que Jules aime cette couleur.
Les choses avancent-elles là-haut ? Demandait M. Clovis.
On se dépêche, mais il y a tant à faire. Vous me donnez trop de belles choses, grand-papa. Et vous, cher, cher bon cousin !
Elle les embrassait impétueusement, puis se sauvait comme elle était venue, semant ses épingles dans l'escalier. Les deux vieillards se regardaient et souriaient avec satisfaction.
« C'est pourtant moi qui ai fait ce mariage, » disait le grand-père, pour la 100e fois peut-être. « Du premier jour, j'ai vu qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Toi qui es plus jeune que moi, tu ne voyais pas cela. »«
Est-elle assez changée, notre petite ?» faisait M. Clovis lentement, considérant les jointures de ses vieux doigts entrelacés, comme s'il y lisait l'avenir. « Elle rit, elle chante, mais ce n'est pas là encore que je vois la grande différence. » C'est dans sa manière d'être avec Jules, de le regarder comme si elle oubliait tout ce qui l'entoure, d'avoir l'air mécontente si l'on ne se tait pas pour écouter ce qu'il dit. Pauvre petite Zosette, si elle savait que je l'observe, comme elle rougirait.
Ah, pour cette fois, fit-il au bout d'un moment, l'étincelle y est.
L'étincelle, peu ! Fit le grand-père, avançant une lèvre dédaigneuse. Que peux-tu bien savoir de l'étincelle, toi ? Et M. Clovis, qui ne discutait jamais, reconnut qu'en effet, son état de célibataire lui donnait à peine le droit d'avoir une opinion sur le sujet. Il n'avait Dieu que pour sa Zosette, pour son petit oiseau, mais s'il avait étudié Jules Morier avec la même attention, il aurait aussi découvert chez le jeune homme un profond changement, comme un élargissement du cœur et même de l'esprit, moins de susceptibilité mesquine, moins d'ombrageuse vanité, un effort continuel qui avait quelque chose d'humble et de touchant pour entrer dans les vues de Zoé, pour ne la désappointer en rien et dans tout ce qui se rapportait à elle, un sentiment presque exagéré de son insuffisance. Toujours correct, sans grande originalité, il cessait d'être banal depuis qu'il s'oubliait lui-même. La pensée qu'il faisait un mariage avantageux lui était devenue désagréable du jour où il avait aimé Zoé. Il ne pouvait souffrir qu'on le lui rappela. Chaque allusion qui faisait sa mère, personne très positive, était pour lui une nouvelle mortification. Il travaillait avec acharnement, suppléant par une assiduité méticuleuse au génie qu'il n'aurait jamais, pour gagner l'estime, la confiance, une position morale enfin,
à offrir à Zoé en échange de la position matérielle qu'elle lui donnait. Qu'elle lui donnait d'ailleurs sans le savoir, car M. Brutus Romanel et M. Clovis, le premier pour ménager l'orgueil de Jules, le second pour garder à Zoé son heureuse ignorance, s'étaient tus de leurs arrangements. Zoé fut vivement déçue quand elle apprit que Samuel ne serait pas de sa noce. Le père Voumard vint lui-même, comme il convenait, décliner l'invitation, ayant attendu pour cette démarche de cérémonie d'être au dimanche, afin d'éviter l'ennui de se rechanger un jour de travail. Il exposa que sa femme était fatiguée, que l'installation de Samuel leur avait donné bien du tracas et fait perdre beaucoup de temps, que les grandes festivités n'étaient pas leur fête et qu'il n'en souhaitait pas moins au jeune couple toutes sortes de prospérités. Quant à Samuel, il avait de la besogne par-dessus la tête. Au fond, le père Voumard s'étonnait bien un peu du refus catégorique, sans hésitation, de son fils, qu'il aurait volontiers remplacé au râble pour le jour de la noce. Mais sa femme avait approuvé Samuel, et le fermier, qui ne discutait que dans les grandes occasions, s'était abstenu de commentaires.
« Mais nous nous sommes à peine dit adieu !» fit Zoé avec chagrin. « Je ne savais pas, quand il est parti, qu'il s'enterrerait là-bas pour n'en plus sortir. « J'irai le voir, » dit-elle subitement. « Nous sommes trop bons amis pour nous quitter ainsi, sans un mot affectueux. Si nous profitions de ce bel après-midi, Jules, le dernier dimanche de Zoé Romanel, » fit-elle avec un petit soupir.
« Cela vous attriste ? » demanda-t-il, devenant aussitôt très grave.
« Non, mon cher Jules, non !» répondit-elle en riant. « Ma tante vous dira qu'il est de la plus élémentaire convenance que je pousse de temps en temps un petit soupir. »
Sur ce point, Jules était ennuyeux. À la moindre ombre qui passait sur le visage de Zoé, il prenait l'alarme, s'imaginait qu'elle avait des regrets. Elle se fatiguait d'avoir sans cesse à protester contre ses craintes gratuites. Adrienne, qui était présente, demanda à être de la partie. Elle n'était pas trop contente de l'idée de Zoé, mais elle n'osa rien dire. Sans aucune assurance positive, elle avait des inquiétudes et, si elle s'y fût laissée aller, la plus déraisonnable sympathie pour Samuel. « En accompagnant ces deux amoureux qui ne voient qu'eux-mêmes dans l'univers, pensa-t-elle, je rendrai service à ce beau garçon fier que Zoé devrait bien laisser tranquille avec ses inventions d'amitié intempestive. » De la maison grise jusqu'au râble, la course était jolie. Quand on avait gravi par un sentier doux, jonché d'aiguilles sèches jusqu'au sommet de la petite forêt, on voyait au pied de l'autre versant une petite vallée tranquille et verte, fermée de tous côtés par des sapinières. À l'ouest, elle montait vers des plateaux, vers des chênes dont les échancrures laissaient voir d'autres chênes, d'un gris toujours plus diaphane, indistinctes enfin comme des vapeurs. Le ciel, d'un bleu pâle et fin, traversé de nuées minces, qui ressemblaient aux plis d'une gaze transparente, baignait le vallon d'une paisible lumière automnale. Sur les prés, les ombres des haies, des arbres, s'étendaient longues et veloutées, quelques vaches allaient et venaient avec un léger tintement de clochettes, et le petit feu du berger inclinait sa fumée bleue qui s'en allait rasant l'herbe, s'accrochant aux noisetiers sous un souffle de vent. Une atmosphère cendrée, mélancolique, adoucissant la lumière et bleuissant l'ombre, donnait un air de recueillement à ce paysage simple. Au premier détour du sentier, on aperçut la ferme, une petite maison basse dont le large toit en bardeaux tout neuf était d'un joli gris d'ardoise et qui se blottissait par crainte du vent dans un repli de la pente. Ses murs, jusqu'à la hauteur du premier étage, étaient une rude maçonnerie de pierre grise taillée 200 ans auparavant, et sur ce fondement de forteresse, les planches minces de la ramée, la galerie de bois, avaient l'air singulièrement incongrues et provisoires, bien qu'elles eussent déjà un demi-siècle d'existence. Près de la porte, un jardinier s'étendait jusqu'au mur du pré, et sur le mur, en plein soleil, Samuel était assis. Quand il vit les promeneurs descendre le sentier, il se leva et vint à leur rencontre. Il ne s'attendait pas à cette visite, il ne l'eût pas souhaité, mais il affermit son visage et Zoé n'y put lire qu'une expression nouvelle de gravité. « Je désirais voir votre installation avant mon départ, » dit-elle en lui tendant la main. « Montrez-nous toute la maison. » Sans savoir pourquoi, il redoutait qu'elle franchît son seuil.
mais quand elle y fut entrée, il comprit son instinctive répugnance, il sentit que cette minute-là était la fin de tout, même des derniers pauvres rêves. L'image de Zoé, toute blanche, dans sa robe de fine laine crémeuse, agrafée au col par une petite épingle de turquoise qui était un présent de Jules, avec sa taille mince, son cou blanc, ses petites mains gantées et l'air de délicatesse fière de toute sa personne, cette image ne pouvait demeurer dans la cuisine enfumée, au carrelage fendu, qui parut tout à coup à Samuel d'une laideur sordide. Jamais plus il ne pourrait appeler auprès de lui la chère illusion pour qu'elle lui tînt compagnie entre ses murs noirs. Elle y était trop déplacée, trop invraisemblable. Il eut hâte que Zoé s'en allât. Puisque la rupture entière était faite, à quoi bon en prolonger la souffrance ?
« Ce n'est pas aussi joli que votre cuisine de la maison grise, » fit Zoé avec un sourire presque embarrassé. « C'est un peu noir. »« Mon pauvre Samuel, » s'écria-t-elle dans un soudain élan de compassion, « il me semble que vous êtes en exil. »
Il perdit haleine un instant, sa figure devint rigide dans l'effort qu'il fit pour se dominer.
« Que tu es absurde !» dit Adrienne presque fâchée. « Dans une maison paysanne, qu'importe la cuisine ? Ce qu'il faut, c'est une bonne grange sèche, une bonne étable, de beaux prés. »
Vous parlez comme une vraie fermière, dit Samuel, qui, dans cette courte pause, avait repris son empire sur lui-même.
J'ai un grain de sens, voilà tout.
Zoé regardait sa cousine, étonnée de ce ton sévère.
C'est vrai, dit-elle doucement, que je me suis laissée emporter par mon impression. Mais Samuel avait l'air triste.
« La maison est vieille, dit-il, et passablement négligée. Le fermier d'avant moi était vieux, ainsi que sa femme. Mais ma mère va nous prêter Marianne, qui demeurera ici et tiendra le ménage en bon état. »«
J'en suis bien aise, » murmura Zoé.
Elle ne jeta qu'un coup d'œil dans la chambre dont Samuel ouvrait la porte et sortit le plus tôt qu'elle put. Une fois dehors, elle retrouva sa gaieté. Jules, avec sa politesse ordinaire, louait tout ce qu'il voyait, questionnait Samuel. Il aimait d'ailleurs à recueillir des détails sur le rendement de l'agriculture, sur le prix des charrois, sur le commerce des bois à brûler et à bâtir. Ces notions précises pouvaient trouver leur emploi à l'occasion, dans l'affaire où ses intérêts du moment étaient engagés, les chemins de fer régionaux. Tout en causant, ils firent le tour de la maison et arrivèrent au pont de grange, qu'ils montèrent pour visiter la grange, comme ils avaient visité le reste, en amis consciencieux. « Cela ne peut pas vous intéresser, » dit Samuel en se tournant vers Zoé quand il eut poussé devant eux la large porte. « Les choses du rural ne vous disent rien. Vous m'avez avoué une fois, vous en souvenez-vous, qu'entre le collier neuf et le vieux collier de la jument, vous ne voyez aucune différence. »
« Quelle mémoire ! Mais je m'en souviens, c'était le jour où nous allions prendre à la gare nos cousins inconnus et le cœur me battait. J'avais une peur !»
Avec un petit mouvement d'enfant heureuse, elle se serra contre Jules dont elle tenait le bras et il ne put s'empêcher de l'attirer plus près encore en lui passant le bras autour de la taille. Puis, honteux l'un et l'autre de s'être oubliés à ce point, ils baissèrent les yeux. Samuel avait fait quelques pas en avant. Adrienne, un peu rouge, jeta à son frère un regard de reproche. En ce moment, ils entendirent dans le foin, au-dessus de leur tête, un grand froissement de tiges sèches, puis une exclamation étouffée et le même bruit battant en retraite vers le fond du tas.
« Qu'est-ce ? » demanda Adrienne alarmée. « Vous n'avez pas de rats ici, j'espère ?»«
Des rats dans la grange ? Non, » dit Samuel en riant. « Ce doit être Louis qui dormait là-haut et que nous avons réveillé. »
« Mais il ne fait donc que dormir, » dit Zoé. « Je n'ai jamais entendu prononcer son nom sans qu'on ajoutât « il est à dormir ».»«
C'est sa maladie, que voulez-vous. Il ne fait tort à personne en dormant le dimanche après-midi. Depuis que nous sommes ensemble, il a pris sa bonne part de la besogne. »«
Merci, Samuel. Tiens mon parti !» cria une voix qui semblait venir des olives.
Chacun s'arrêta, pensant que Louis allait entrer en scène, mais il ne se montra pas. Et Zoé, prenant le bras d'Adrienne, l'entraîna vivement hors de la grange.
« Que c'est grotesque !» fit-elle à mi-voix. « Je n'aime pas ce Louis, il ne m'a jamais plu. Sa mère le gâte abominablement à ce que dit Flore.
Pauvre Samuel, imagine ce que sera l'hiver à passer en tête à tête avec ce lourdeau. »
Tu ferais mieux, dit Adrienne, de lui laisser voir un peu moins ta compassion. Il n'est pas si fort à plaindre, d'ailleurs. Il remplit son devoir. Je ne le plains pas, moi. Je l'admire. »
Elle s'exprimait avec une vivacité qui, de nouveau, surprit sa cousine, mais comme Jules les rejoignait en ce moment, elles se turent toutes deux. Le soleil commençait à baisser et perçait de longues flèches la dentelle des hêtres à la lisière des prés. Il fallait songer au retour. Déjà, les vaches arrivaient lentement, en file, secouant leurs sonnailles en allongeant le cou pour saisir encore au passage quelques touffes vertes. C'était l'heure de traire, l'heure aussi d'aller tirer Louis de ses songes. Cependant, Samuel, le cœur serré, fit silencieusement un bout de chemin avec ses visiteurs, afin de reculer la dernière minute, le dernier regard. Ils passèrent sous les sorbiers, dont les grappes écarlates pendaient sous les feuilles recroquevillées par le gel. Puis ils entrèrent dans les prés. C'est le luxe de l'automne, ce plaisir de marcher sur le court gazon flétri, à l'aventure, sans nul souci des sentiers. Les fleurettes palottes de la saison, blanches, ou d'un lilas très doux, ou d'un violet de deuil, les parnassies aux petites coupes d'albâtre, les colchiques, si pressés de jouir des derniers soleils qu'ils n'ont le temps de se faire ni feuilles ni tiges, et les touffes de la mignonne fraise, des bouquets de verdure sombre semés de petites perles, se dépêchent partout d'éclore et sourient avec la douceur triste des choses finissantes. Au bout du pré, on se dit adieu un peu confusément, on se sépara. Adrienne et son frère, et Zoé, l'esprit plein de chères images, continuèrent à marcher dans leurs rêves. Samuel, résolument, laissa le sien derrière lui et se dirigea sans tourner la tête vers la vieille maison, vers le devoir.